9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, cette semaine sera-t-elle celle de la transparence et d'un retour de confiance dans une église en crise? Les 118 évêques catholiques vont entendre cet après-midi à Lourdes, et pour la première fois, des victimes de prêtres pédophiles, 8 victimes, évêques qui devraient annoncer la mise en place d'une instance indépendante pour faire la vérité sur les abus sexuels dans l'église. Christine Pedotti, la directrice de Témoignages Chrétiens, qui demande, elle, par pétition, une commission d'enquête parlementaire sur les crimes pédophiles dans l'église, sera notre première invitée. On les appelle, pour faire simple, les bébés sans bras, et personne n'en connaît la cause. Ces enfants qui naissent avec une malformation des membres supérieurs seraient 150 chaque année en France, moins de 2 cas pour 10 000 naissances. Cette moyenne a-t-elle été franchie dans des zones géographiques restreintes? Y a-t-il une anomalie statistique et donc un phénomène suspect dans le département de l'Ain où 18 cas ont été décelés en 15 ans? C'est toute la controverse en cours. Parole d'une habitante de zone concernée.
Plus le nombre, effectivement, on se rend compte qu'il y a effectivement un problème. C'est pas par hasard, on va dire, que ces enfants naissent effectivement sans bras ou sans doigts ou sans mains. Il y a effectivement, je pense, un problème. Pour nos enfants qui risquent d'avoir des enfants futurs, oui, ça m'inquiète parce que je me dis d'où ça vient et pourquoi dans cette région comme ça.
Un problème, le hasard, un scandale de santé publique qu'on a voulu étouffer. Ségolène Aimé, médecin généticienne, spécialiste des maladies rares, présidente du comité d'évaluation des registres, comme celui de Rhône-Alpes, le REMERA, va nous aider à y voir clair. La période ressemble-t-elle aux années 30? Montée des crises, des peurs, des populismes, la comparaison n'est pas nouvelle, mais Emmanuel Macron la recycle cette fois en parlant des années 20, celle où le fascisme a pris le pouvoir en Italie. Commentaire d'un historien spécialiste de la concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Enfin, dans C'est arrivé cette semaine, un jeune aventurier, navigateur, ingénieur qui revient d'un tour du monde de 3 ans à la recherche de low-tech, de solutions simples pour la planète, pour boire et manger ou créer de l'énergie. Corentin de Châtel-Perron, nomade des mers, viendra nous raconter ses expériences.
9h, 10h, C'est arrivé cette semaine
avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Une prise de parole sans précédent, une confrontation que plusieurs évêques ont dit redoutée hier dans le journal La Croix. 8 victimes d'abus sexuels dans l'église sont donc invitées à témoigner au premier jour de l'assemblée plénière de la conférence des évêques de France à Lourdes. Pendant un peu plus d'une heure, les prélats seront répartis par groupe de 30 avec 2 victimes par forum et une conférence de presse commune aura lieu en fin de journée. Bonjour Christine Pedotti.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du magazine Témoignages Chrétiens. Cette rencontre, elle était réclamée depuis des années. Les évêques étaient réticents. C'est un geste important à vos yeux, c'est un événement?
Alors sans doute c'est bien, je veux dire, on est navré qu'il ait fallu tant de temps, et puis j'ose espérer quand même que les évêques ont rencontré des victimes, chacun pour leur propre compte, dans leur diocèse.
Pas tous apparemment, hein, d'après leur parole.
Rien que ça, c'est assez incroyable et significatif. Alors du coup, on fait de la communication aujourd'hui. Je veux dire, les victimes ne sont pas des bestioles qu'on regarde et qu'on observe comme si elles étaient sous le microscope. Ce sont des êtres humains. Moi, je trouve ça très étonnant que les évêques, tout d'un coup, se disent, les victimes, on en a pas vu, alors on va en regarder ensemble, en écouter. Enfin, je dois dire que je suis assez réticente sur le processus. Sur le fond, je trouve extrêmement bien qu'ils envisagent de prendre le problème à bras-le-corps.
Alors on verra quelles mesures peuvent être prises. Parmi les évêques qui entendront ces paroles, il y aura l'archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin, qui sera jugé début janvier pour non-dénonciation d'abus sexuels. Le maintien de Philippe Barbarin, c'est un problème à vos yeux, Christine Pedotti?
Et à mon avis, c'est une question qui devrait se poser à lui-même. Qu'il soit coupable ou innocent, le tribunal le dira. Aujourd'hui, sa parole, son boulot, c'est de diriger le diocèse de Lyon. Comment est-ce qu'il réussit à faire ce travail-là, à être crédible, à avoir la confiance de tout le monde? Un évêque, c'est quelqu'un à qui on doit absolument faire confiance, avec les soupçons qui pèsent sur lui. Moi, je comprends juste pas. N'importe quel ministre qui est réputé avoir moins de moralité, a priori, que le cardinal Barbarin, dans ces conditions-là, considérerait qu'il n'est pas en état de continuer à assumer ses fonctions. Et le cardinal Barbarin a l'air, lui, 100 000 signatures. Je veux bien que ça ne soit que des signatures, mais enfin quand même, c'est
dans une pétition dont on va parler. La rumeur dit que le cardinal a présenté sa démission, que le pape a refusé, mais
Bah écoutez, je connais un Lyonnais qui a présenté sa démission et puis on lui a refusé, il est parti quand même.
Hein. Oui, alors mauvais signal, le père Vignon, ce prêtre qui avait lancé donc cette pétition appelant à la démission du cardinal Barbarin qui s'est battu justement pour que les évêques reçoivent les victimes. Pierre Vignon vient d'être sanctionné, écarté de sa fonction de juge canonique à Lyon. Voici ce qu'il disait.
Par qui ?
Par les évêques de la région, les douze évêques.
Dont le patron est ?
Le cardinal Barbarin ?
Oui.
Voici ce que disait Pierre Vignon en août dernier.
Nous sommes tous dans un état de nausée par rapport à ces révélations successives. Et il serait grand temps de dire, ben oui, si les victimes sont premières, on prend les actions et les mesures pour pouvoir régler définitivement cette question. Si c'est pour continuer à occuper la place, autant la laisser à un autre. Ça serait une pénitence bien plus grande et bien plus sérieuse, je pense.
Pierre Vignon, écarté donc de sa fonction de juge canonique. Vous le connaissez bien, Christine Pelotti.
Oui, je parle avec lui régulièrement. C'est un homme courageux, c'est un grand spirituel. C'est très impressionnant de parler avec Pierre Vignon. C'est un homme qui est habité par sa foi. Il fait pas ça pour faire du scandale. Il fait ça parce qu'il a une conviction puissante, profonde. C'est un homme impressionnant, oui.
Christine Pelotti, directrice de Témoignages Chrétiens. On marque une courte pause avant de poursuivre avec vous. Comment l'Église pourrait-elle sortir de cette crise des scandales d'abus sexuels ?
Europe 1. Vous écoutez la suite de C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Et avec Christine Pelotti, théologienne. Vous avez raconté la Bible comme un roman et c'était passionnant. Votre dernier livre, c'est Jésus, l'homme qui préférait les femmes chez Albin Michel contre la vision masculiniste de l'Évangile. Hein. Directrice de Témoignages Chrétiens et emmerdeuse de Bénitier, la formule est de vous ?
Je ne sais pas, en tous les cas, je l'accepte.
Dans la pétition que vous avez lancée pour la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les abus sexuels dans l'Église aux côtés de Jean-Pierre Mignard, Roselyne Bachelot, William Bourdon, il y avait cette formule « Il nous importe non pas de faire éclater des scandales, mais d'en faire cesser un ». Ce scandale, Christine Pelotti, est-ce que vous en connaissez l'ampleur ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une généralité de cas isolés et marginaux ?
Alors je ne crois pas que ce soit des cas isolés et marginaux. Malheureusement, alors que la parole se libère, comme on dit, on voit que surgissent en France des cas. Là, en Vendée, on voit que dans un pensionnat, il y a des cas. Les diocèses, on voit que les chiffres que publie l'épiscopat montrent que quand on dit aux gens qu'ils peuvent parler, eh bien, on récupère en une année plus de témoignages et plus de signalements qu'on en avait ramassé pendant les 6 années précédentes.
Je vais donner le chiffre entre janvier 2017 et octobre 2018, 129 clercs, a dit l'Église de France, ont été mis en cause par un témoignage ou une plainte. L'Église qui a procédé à 75 signalements auprès des parquets, dont 43 pour des faits antérieurs à l'année 2000, 31 pour des faits postérieurs à 2000. C'est beaucoup ? Sur 15 000 prêtres et diacres en France ?
Oui, a priori. Enfin, je ne sais. En fait, au fond, on ne sait pas si c'est beaucoup. On voudrait bien savoir. On voudrait une cartographie. Partout où le travail a été fait, on a commencé par faire un très très large appel aux victimes, parce qu'évidemment, il ne faut pas demander à l'institution qui n'a pas su écouter, pas su entendre pendant des décennies, de faire elle-même le bilan. Il faut pour le moins demander aux victimes. Donc, la première chose, c'est de faire un large appel aux victimes. Nous, c'est vrai que dans l'appel qu'on a lancé, on a des victimes qui ont répondu, ils ont mis des petits commentaires en marge en disant « ça m'est arrivé, ça m'est arrivé ». C'est comme une litanie lancinante d'hommes, principalement, qui disent « ça m'est arrivé quand j'avais 12 ans, ça m'est arrivé quand j'avais 13 ans », qui sont parfois des hommes qui ont 70 ans. Donc voilà, parce que les mécanismes de mémoire sont très longs. Hein, le retour à la conscience des actes qui ont été posés contre un garçon de 13-14 ans met très longtemps à se mettre en œuvre.
Pourquoi avoir demandé une commission d'enquête parlementaire ? Certains des sénateurs de droite qui ont refusé la proposition ont dit « mais c'est pas aux parlementaires de se mêler des affaires de l'Église, on a voté la loi de 1905 ».
Alors ça serait quand même extraordinaire que parce que des citoyens sont catholiques, ils soient moins bien protégés par la loi française que les autres citoyens. Je veux dire, le fait de la pédophilie dans l'Église et sa dissimulation, parce que vous savez, on parle des prêtres pédophiles, après tout, des pervers, je veux dire, il y a une sorte de fatalité statistique. Ce qui est grave, c'est quand, en fait, une institution ne fait pas le travail de nettoyage, de responsabilité qui doit être le sien. Moi, si je questionne mon Église parce que je suis catholique, c'est parce qu'en fait, ce travail-là n'est pas fait et j'espère qu'il est en train d'être fait, je n'en suis pas certaine. Il manque terriblement un membre de cette hiérarchie de l'Église autour de cette table pour s'en expliquer. J'ai cru comprendre qu'il n'était pas pressé d'aller dans les médias s'expliquer.
Oui, l'un d'eux a fait une émission cette semaine sur RCF, les radios catholiques.
On aimerait les voir dans les grands médias rassurer tout le monde. Les catholiques, c'est 60% des Français.
Ça viendra peut-être. Hein, l'idée d'une commission indépendante, c'est ça qui est lancée, qui devrait être annoncée aujourd'hui sur le modèle de celle que les évêques avaient confiée à René Raymond lors de l'affaire Touvier. Christine Pelotti.
Oui, d'abord, écoutez. L'indépendance, c'est un certain nombre de conditions. C'est d'abord une réelle indépendance, c'est-à-dire que les évêques, même s'ils sont à l'origine, c'est pas eux qui contrôlent. Ensuite, il y a un problème de moyens, y compris de moyens matériels et financiers. Parce que si on veut faire le travail, il faut de l'argent. Il faut savoir comment on va financer ça. Ça peut pas être de l'amateurisme et du bénévolat. Ensuite, il faut que les évêques, vous savez que chaque évêque est prince chez lui. Il n'y a pas un truc central. Il faut que chaque évêque s'engage à accepter de venir. C'est pour ça que nous, on est partisans d'une commission parlementaire. C'est qu'en fait, on est obligé de venir à une convocation. Est-ce que les évêques, devant cette commission qu'ils solliciteraient, accepteraient de venir comme témoins, d'être interrogés? Il faut que ce soit public. Parce que évidemment le problème de la transparence est très importante et il faut évidemment que le rapport final soit sans veto des évêques. Ça fait beaucoup de conditions. Moi, si toutes ces conditions sont remplies, je ne pourrai que saluer cette initiative. Mais il faudra que toutes ces conditions soient remplies.
Quel est l'objectif ? Redonner confiance ? Il y a une perte de confiance aujourd'hui dans l'Église.
Oui, il y a une dramatique perte de confiance. Moi,
ça se manifeste comment ?
Mais on voit ça à travers les gens qui hésitent à inscrire leurs enfants au caté, au scout. Bah oui. Quand vous avez une dame qui vient inscrire son fils ou sa fille au caté et qui dit à la dame qui l'inscrit, vous me garantissez bien que c'est madame machin qui va faire le caté et pas le curé bidule, c'est quand même incroyable. Les gens, ils ont peur des curés maintenant. Mais c'est dramatique pour tous les prêtres qui sont innocents. Vous imaginez ? C'est-à-dire, si vous pensez à chaque instant que le prêtre qui est en train de baptiser votre enfant, de dire la messe, est peut-être un pédophile. Je veux dire, dans le peut-être, il y a un poison dont il faut se débarrasser, évidemment.
Merci Christine Pelotti, directrice de Témoignages Chrétiens, d'être venue ce matin au micro d'Europe 1. Et vous ne lâchez pas l'affaire, les députés pourraient revenir pour proposer une commission d'enquête parlementaire.
Tout à fait, cette semaine on s'en occupe et on lance un appel pour que les gens, sur le site sur lequel on avait lancé cette pétition, pour qu'ils appellent leurs élus à lancer cette commission.
Merci à vous. Europe 1. Dans un instant, l'affaire des bébés sans bras vue par l'épidémiologiste Ségolène Aimé. Elle préside le comité d'évaluation des registres.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez Patrick Cohen avec C'est arrivé cette semaine.
Environ 150 enfants naissent chaque année en France avec une malformation des membres supérieurs, mains ou bras. Environ, parce que ces cas ne sont pas répertoriés sur l'ensemble du territoire. Les causes de ces malformations ne sont pas connues, pas plus que le nombre précis de cas suspects dans le département de l'Ain, suspects parce qu'ils seraient en surnombre, groupés dans un lieu et un temps donné. Cela fait beaucoup d'inconnus pour un sujet de santé publique complexe qu'on va tenter, non pas de simplifier, mais de rendre plus clair. Bonjour Ségolène Aimé.
Bonjour.
Directrice de recherche émérite à l'INSERM, médecin généticienne et épidémiologiste et présidente du comité d'évaluation des registres dont fait partie le REMERA en Rhône-Alpes. D'abord, qu'est-ce qu'on sait de ce type de malformation à la naissance ? C'est courant ? C'est génétique ? C'est environnemental ? Qu'est-ce qu'on sait ?
Alors, ce qu'on sait, c'est que ça touche à peu près partout dans le monde. Un enfant, 0,7 sur 10 000, c'est-à-dire un ou deux enfants sur 10 000. Donc, c'est plutôt dans les malformations rares, parce que toutes les malformations prises ensemble, c'est à peu près 1% des naissances.
Partout dans le monde, ça veut dire aussi bien dans les pays développés que
tout à
dans
fait.
Les pays sous-développés.
Ça a toujours existé. J'espère que peut-être un jour, on pourra savoir prévenir ça. Mais pour l'instant, on n'a aucune piste dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que le développement embryo-fœtal, ces 9 mois magiques qui conduisent à la naissance d'un enfant, sont extrêmement complexes. C'est un programme très compliqué avec des cascades d'événements, des interactions biologique dans le corps du fœtus, avec la mère et sa biologie à elle-même et avec l'environnement.
Mais ce qu'on sait, c'est que ça n'est pas génétique.
Alors, ce n'est pas génétique, c'est plutôt, ce n'est pas héréditaire. C'est-à-dire
c'est pas héréditaire,
quand les mamans ont eu un enfant avec ce type d'anomalie, elles ont un risque d'en avoir un autre qui est tout petit peu supérieur quand même à la population générale. On sait que d'une manière générale, dans les malformations, c'est à peu près un risque de 1% pour n'importe qui et à peu près 3% quand on a déjà eu un enfant atteint. Ce qui montre qu'il y a quand même un petit terrain génétique derrière qui n'est pas complètement expliqué, mais on a de plus en plus de compréhension de ça parce que, par exemple, pour qu'un membre pousse, il y a un petit bourgeon qui se forme et puis il se développe et puis il prend forme, etc. Et ça demande de l'énergie. L'énergie, elle arrive avec le sang. Donc, il faut que les vaisseaux se forment. Oui. Et donc, il y a des substances qui sont favorables à cette poussée des nouveaux vaisseaux.
Oui. Et d'autres qui
voilà.
Et,
mais
empêchent.
Génétiquement aussi, vous pouvez avoir une croissance des vaisseaux qui est un petit peu plus lente. Et comme il y a un calendrier, quand le membre n'est pas formé à une date précise, ça s'arrête et on passe à un autre programme. Et donc c'est comme ça que le monde peut rester en rade quelque
Est-ce
part.
Est-ce que le tabac, l'alcool, un air pollué par différentes substances peut empêcher
contribuer.
Cette formation ?
Ça peut contribuer, tout à fait. On sait, parce qu'on fait de l'expérimentation chez l'animal pour retrouver comment reproduire ce type de malformation, ça a été très étudié. Effectivement, tout ce qui va ralentir l'arrivée des nouveaux vaisseaux et la poussée des cellules, disons, va pouvoir faire ça. Par exemple, les virus, on peut très bien avoir une infection virale qui va ralentir le métabolisme, la fièvre, le tabac, tout à fait, qui joue beaucoup sur la poussée des vaisseaux, l'alcool, très connu comme étant un facteur de risque. Oui, beaucoup de choses. Et donc, tous les facteurs dans l'environnement sont suspects a priori.
Mais pour l'instant, pour les cas concernés dont on parle, en Loire-Atlantique, dans le Morbihan, dans l'Ain, on n'a pas trouvé, Santé publique France, dans l'état actuel des choses, n'a pas trouvé de cause commune et de point commun aux familles et aux mères qui ont donné naissance à ces enfants. On a entendu dans le sommaire tout à l'heure une habitante de l'Ain qui est dans la zone concernée dire « ça ne peut pas être le hasard ».
Mais si, malheureusement, ça peut être le hasard. Ça peut être le hasard qu'il y ait un agrégat de cas, c'est-à-dire un excès de cas à un moment donné, parce que on parle de très petits nombres. On attend un cas ou deux par an dans l'Ain, d'accord ? S'il y en a trois une année, il peut y en avoir eu zéro pendant deux ans avant, et ce sont des fluctuations qui peuvent tout à fait se faire au hasard. Mais de toute façon, je voudrais dire que on ne peut pas faire des statistiques sur d'aussi petits nombres. Et donc, la bonne pratique qui a été standardisée dans les années 70 aux États-Unis, c'est que quand des citoyens ou des professionnels de santé remarquent qu'il y a un excès de cas quelque part, on doit investiguer, on doit chercher s'il y a une cause commune à tous ces cas. Donc, moi, la polémique statistique ne m'intéresse pas du tout. Il y a des gens qui se sont inquiétés, qui ont remarqué quelque chose. Eh bien, il faut aller voir. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire leur appliquer un questionnaire en listant tout ce qu'on sait qui peut être un facteur causal pour voir s'il y en a un en commun. Ça a été déjà fait et on n'a rien trouvé ni en Bretagne, ni dans l'Ain. Après, au-delà de ça, si réellement il y a un excès de cas localisé, il faut chercher une cause locale. Oui. C'est pour ça que je ne comprends pas du tout la polémique sur les pesticides en général, parce que pourquoi particulièrement les pesticides qui sont malheureusement extrêmement répandus partout en France, dans toutes les zones paysannes, agricoles, et même nous qui sommes en zone urbaine, on est très exposés aussi par l'alimentation. Donc c'est une cause très générale, donc ça, a priori, si ça devait être en cause, ça ne ferait pas un excès de cas localisé.
Il n'y a pas eu un épandage particulier ou un produit qui circulait, qui était
voilà.
En circulation.
Donc ça, c'est dans les investigations qu'il faut mener. Oui. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que des excès de cas comme ça, ils s'en observent statistiquement beaucoup. Oui. Et il y a une étude récente en Europe qui regardait tous ces excès de cas localisés. Il y en avait eu 135 qui avaient été notifiés comme ça en 10 ans et on n'a jamais rien trouvé parce que c'est extrêmement difficile, parce que je pense que malheureusement les causes environnementales sont additionnelles, c'est-à-dire c'est des petites causes qui l'une à côté de l'autre font à la fin une catastrophe.
On en a peu parlé, mais d'après Santé publique France, il y a réellement une anomalie statistique dans le Morbihan et en Loire-Atlantique. 4 enfants nés de mères domiciliées à Guidel dans le Morbihan entre 2011 et 2013. 3 enfants à Mouzeil entre 2007 et 2008. Là, Santé publique France dit oui, là, il y a quelque chose.
Oui, non, mais moi, je n'ai pas compris pourquoi il faisait une différence entre les trois départements. Pour moi, c'est la même chose. De toute façon, à partir du moment où des citoyens sont inquiets, il faut investiguer.
Le Réméra et Emmanuel Hamar Neymar ont lancé une alerte à tort, à votre avis, Ségolène Aimé ?
Oui, c'est parce que ce sont des sujets qui sont très compliqués et qu'on doit d'abord traiter au mieux scientifiquement et médicalement. Je trouve que alerter les mamans dans des départements comme ça, je pense aux femmes enceintes qui doivent se faire un souci d'encre quand elles n'ont pas encore accouché pour savoir si leur enfant va être normal, alors que en toute probabilité, elles ont un risque extrêmement faible d'avoir ce type d'anomalie.
Oui, mais on peut penser qu'elle a eu raison de lancer l'alerte, puisque désormais, il y a une enquête nationale qui a été diligentée.
Mais franchement, on n'a pas besoin du... Enfin, on va faire cette enquête nationale, ça sera... Et je pense que notre époque veut de la transparence et c'est bien. Que c'est pas normal d'ailleurs que les registres et Santé publique France n'aient pas régulièrement publié les données qu'on a année après année. C'est fait à l'échelon européen, pour dans le réseau Eurocat, c'est publié, vous pouvez voir les rapports. Et quand on regarde, quand on a les données, on voit que, par exemple, les anomalies des membres qui font partie des anomalies de ce qu'on appelle la disruption vasculaire, c'est-à-dire c'est des anomalies des vaisseaux qui n'apportent pas assez d'énergie aux bourgeons, eh bien, ces anomalies ont une tendance à baisser en termes de fréquence depuis une dizaine d'années. Donc non seulement il n'y a pas de cohérence avec ce qu'on sait au niveau des autres registres européens, mais vraiment la tendance est baissière, à l'augmentation.
Ce qui vous laisse penser que les causes environnementales ne sont pas premières.
Elles ne sont pas premières, mais surtout il n'y a pas cet excès de cas peut très bien maintenant se normaliser. Et il semble qu'il se soit normalisé puisque après la période 2009-2014, eh bien, le nombre de cas est redevenu tout à fait normal. Donc, on voit des fluctuations comme ça de cas. Et si on regardait France entière, on trouverait, d'après les calculs statistiques, 200 clusters par an, c'est-à-dire 200 petits excès locaux.
Voilà, les clusters, c'est
un excès de cas.
Des agrégats, un excès de cas dans un temps et sur un lieu donné.
Tout à fait.
Très rapidement, Ségolène Aimé, comment se fait-il que le territoire entier ne soit pas couvert par les registres ? Est-ce que c'est normal ?
Oui, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, la France a beaucoup de registres. C'est parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'expertise, beaucoup de moyens, et il vaut mieux faire très bien le travail localisé, et s'il y a une alerte, après on généralise.
Merci Ségolène Aimé d'être venue nous éclairer sur ce sujet de santé publique complexe. Merci à vous.
Europe 1.
La période ressemble-t-elle aux années 20 ? Y a-t-il un parfum d'années 30 ? L'historien Jean-Noël Jeannet avec nous dans un instant.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, continue jusqu'à 10h avec vous Patrick Cohen.
Les années 30 sont-elles de retour ? Question déjà entendue ces dernières années, mais c'est la première fois qu'elle est posée par un président de la République. Voilà précisément ce qu'a dit Emmanuel Macron lundi au Panthéon en visitant l'exposition Clémenceau. « Je suis frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres dans une Europe divisée par les peurs, le repli nationaliste et les conséquences de la crise économique. On voit presque méthodiquement se réarticuler tout ce qui a rythmé la vie de l'Europe de l'après-Première Guerre mondiale à la crise de 29. » Fin de citation, où l'on voit que le président parlait plutôt des années 20 que des années 30. Bonjour Jean-Noël Jeannet.
Bonjour.
Historien, ancien ministre, homme de radio, auteur d'un Clémenceau il y a 2 ans et président du musée Clémenceau, ce qui fait que vous étiez lundi au Panthéon. Elle a du sens cette comparaison ?
Oui, c'est toute la question des comparaisons en histoire. Elles sont à la fois stimulantes et en même temps elles sont dangereuses. Parce que quand on est historien et quand on est citoyen attentif, on sait bien que l'histoire en réalité ne se répète jamais à l'identique. L'idée qu'elle passe 2 fois les plats, c'est absurde. En revanche, ce qui est, je crois, éclairant pour le citoyen et pour la réflexion d'ensemble, c'est d'aller rechercher ce qui, dans les événements, peut faire écho, peut faire reflet. Et là, je pense qu'il n'est pas indu de mener cette comparaison, y compris pour voir toutes les différences, y compris pour définir la latitude d'action des acteurs, c'est-à-dire nous, par rapport à un futur qui n'est jamais dessiné d'avance.
Et l'enchaînement des événements aussi, parce que dans la déclaration d'Emmanuel Macron, il y a l'idée de causes qui se font suite et d'une forme d'engrenage dans les événements au niveau politique et européen. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Jean-Noël?
Oui, je vois que la Dépêche a titré les années 30. En réalité, quand on la regarde de près, il s'agit plutôt des années 20. Et comme c'est intéressant, car la question est de savoir en effet comment on évolue d'une période à une autre.
Précisément, dans les années 20, on ne vit pas un entre-deux-guerres, on vit un après-guerre dont on va justement célébrer le centenaire là dans les jours à venir.
Oui,
est-ce qu'on n'oublie pas un peu vite les liens entre cette grande guerre et la montée des crises des années 20,
Jean-Noël? Oui, elle a compté, sûrement, elle a compté. Et c'est vrai que si on estime que la rencontre entre la France et l'Allemagne dans les années 50 est le grand événement positif qui a permis de construire l'Europe, l'opposition est marquée avec les années 20. Qu'est-ce qui s'était passé dans les années 20? Il s'était passé que la France estimait une des plus grandes puissances du monde et qu'elle avait gagné. Et l'Allemagne, au fond, considérait qu'elle n'avait pas perdu. Elle n'avait pas eu la guerre sur son territoire. Et cela a été quelque chose qui a rongé d'avance la diplomatie, même s'il y a eu d'autre part beaucoup d'erreurs qui ont été accomplies. Alors que dans les années 50, la France savait en profondeur qu'elle demeurait profondément vaincue par 1940. Quant à l'Allemagne, elle ne pouvait pas ignorer qu'elle l'avait été. Tout son territoire emportait les blessures. Et par conséquent, cela a permis, en fait, en profondeur, je crois, qu'il y ait le plan Schuman, qu'il y ait la rencontre entre la France et l'Allemagne, qui est au cœur de la construction européenne, et qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, en dépit des inquiétudes légitimes, il me paraît devoir ne pas tomber dans un pessimisme absolu. La grande nouveauté par rapport aux années 30, c'est qu'on avait réussi à construire l'Europe. Elle a plein de défauts, nous le savons bien, nous grognons tous constamment, il n'empêche qu'elle est là. Et puisque le président Macron a surtout parlé de l'Europe dans ce propos tenu dans la crypte du Panthéon, c'était bien cela qu'il voulait dire. Le vrai drame qui a fait basculer les psychologies, qui a créé l'angoisse, ça a été vraiment la crise de 29, ça a été vraiment le chômage, ça a été une misère bien supérieure à celle que connaît l'Europe aujourd'hui, en dépit de toutes les difficultés qu'affrontent beaucoup de ses citoyens.
Dans les années 20, Jean-Noël Jeannet, on n'a pas encore un régime expansionniste et belliqueux comme le sera l'Allemagne hitlérienne, mais on a déjà une dictature fasciste, c'est celle de Mussolini en Italie. Est-ce que il y a aussi cette référence peut-être dans l'esprit, dans ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron?
Oui, elle conduit à une réflexion sur le nationalisme et sur la nécessité absolue de distinguer patriotisme, appartenance délibérée à un ensemble dont on doit être fier si possible, et d'autre part le nationalisme, c'est-à-dire repli sur soi, c'est-à-dire rejet des autres, c'est-à-dire affirmation d'une sorte d'identitarisme un peu absurde. Mais dans le cas de l'Italie que vous évoquez à bon escient, il y avait une autre donnée du nationalisme du temps, c'est-à-dire l'irrédentisme, c'est-à-dire le bellicisme. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse dire que les pays nationalistes qui nous inquiètent, à l'exception probablement de la Russie, que ces pays souhaitent s'étendre.
Monter des crises tout de même, monter des populismes, monter des peurs, c'est cela qu'on peut observer aujourd'hui. Est-ce que ça n'est pas, de la part du président de la République, une manière de faire peur, une façon commode de mettre en garde contre des jours qui pourraient être plus sombres encore que ceux d'aujourd'hui ?
Peut-être fait-il de la politique en faisant de l'histoire. Il ne sera pas le premier, si vous voulez bien l'observer. Qu'il nous mette en garde contre les excès du nationalisme, moi je n'en suis pas chagrin ni indigné. C'est une occasion de réfléchir, à condition encore une fois qu'on ne dise pas tout est pareil, parce que si on dit tout est pareil, alors on dit tout est fatal. Et c'est précisément le contraire qu'il s'agit de mettre sur la table. Et d'autre part, il y a des crises aujourd'hui plus grave à d'autres égards que celle de l'époque. La crise climatique, elle n'existait pas dans les années 30. Ce que représente le péril du numérique du point de vue de la circulation des passions à l'intérieur d'une nation, ça n'était pas là. Et la crise migratoire, c'est-à-dire en fait la crise démographique, est un défi qu'on ne connaissait pas à l'époque. Il y avait 2 milliards d'habitants sur cette planète en 1930. Il y aurait 10 milliards en 2050. Je crois que ce sont des ressorts possibles, si on ne les maîtrise pas, dangereux, très dangereux.
Mais l'Europe n'était pas bousculée par des puissances extérieures comme elle l'est aujourd'hui, et c'est important.
Elle était déchirée à l'intérieur d'elle-même par la hideur de régime qui avait surgi un peu du traité de Versailles, il faudra en discuter, mais beaucoup évidemment de la crise de 29 et d'un certain désarroi, impéritie du capitalisme dominant. Une absence aussi des États-Unis. Déjà, il y avait du Trump chez les présidents républicains des années 20, on l'a oublié. Ils avaient voulu se mêler de l'organisation de l'Europe avec Wilson, et puis juste après, ils s'étaient retirés de la Société des Nations, qui n'a pas si mal marché dans les années 20. Vous voyez qu'on peut trouver des échos qui ne sont peut-être pas toujours ceux qu'on attend.
Merci Jean-Noël Jeannet. Dernier ouvrage paru, Le Moment Macron, il y a quelques mois au Seuil. Hein.
Oui, c'était un regard d'un historien sur ce que ce président pouvait évoquer de précédents antérieurs et ce qu'il nous disait aussi sur l'histoire. Naturellement, je le rééditerai à la fin de son quinquennat avec des notes en bas de page.
Merci d'être venu au micro d'Europe 1, Jean-Noël Jeannet.
Merci de votre accueil.
Europe 1.
Et dans un instant, tout autre chose, un jeune aventurier, navigateur, ingénieur qui
qui revient d'un tour du monde de 3 ans à la recherche de solutions simples pour la planète. Corentin de Châtel-Perron, nomade des mers, va venir nous raconter ses expériences.
Europe 1. De 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine.
Laissez-moi à présent vous présenter un jeune ingénieur, navigateur, aventurier. Mais je mets ça dans quel ordre, Corentin de Châtel-Perron ?
N'importe, les trois marches.
Ingénieur et bricoleur, navigateur, aventurier, oui aussi, ça vous...
Bah oui, c'est un espèce de mélange de tout. Je me suis créé mon travail, je crois.
Vous avez 35 ans, vous avez construit votre premier voilier à 26 ans. C'était au Bangladesh. Vous travailliez alors sur un chantier naval. Et vous avez l'idée de remplacer la fibre de verre qui sert à fabriquer la coque par de la fibre de jute qu'on peut produire localement.
Ben ouais, en fait, la fibre de jute, c'est ce qui servait à faire nos sacs à patates avant.
Oui.
Mais on s'en sert de moins en moins. Et en fait, c'est une économie qui était hyper importante au Bangladesh, puisque c'est une fibre, la fibre de jute, qui pousse quasiment que dans cette région-là du monde. Et j'ai eu l'idée de remplacer la fibre de verre, qui demande beaucoup d'énergie à produire et qui était importée au Bangladesh, par cette fibre naturelle, pour que ça ait un impact et écologique et économique.
Vous avez fait un bateau. Il y en a eu d'autres derrière vous?
Ouais, ouais. Donc ça, c'était le premier à 40% en fibre de jute. Ensuite, 2 ans plus tard, on a fait un deuxième 100% en fibre de jute. Et depuis, il y en a eu quelques-uns, mais surtout, on essaye de motiver des industriels à faire ça à grande échelle, ce qui n'est pas encore le cas.
Comment ça se fait?
Bah parce qu'il faut qu'il y ait un peu des contraintes écologiques, ouais, pour que les industriels s'y mettent. Parce que bon, un industriel, ça change pas du jour au lendemain de matériaux. Mais déjà, par exemple, dans l'automobile, on voit de plus en plus des matériaux à base de fibres naturelles apparaître. Et donc, on est quand même assez optimiste.
Et depuis donc, Corentin de Châtel-Perron, vous vous attachez à trouver des solutions locales pour l'alimentation en eau, en nourriture, pour des produits de première nécessité. D'où ce voyage de 3 ans à bord du catamaran Nomade des mers pour un tour du monde des innovations. Ça donne une série de films diffusés en ce moment sur Arte et un livre, Nomade des mers, chez Arte Éditions. Alors dans ce bateau, il y a une serre, vous faites de l'hydroponie, c'est-à-dire la culture hors sol. Un poulailler, des poules qui vous font des œufs, des bons œufs, un four solaire et des insectes, des vers notamment pour vous fournir des protéines, c'est bon ?
En fait, depuis, je suis passé au grillon, que je trouve meilleur et plus simple à élever.
Ah oui, parce que vous faites fuir un peu avec vos vers de terre, là, au Maroc, ouais, vous avez quelques convives sur le bateau qui disent non, merci bien.
Il y a une petite barrière psychologique avant de manger des vers, mais surtout qu'il faut les trier tous les jours et ça demande pas mal de temps, alors que les grillons, c'est beaucoup plus simple.
Ah très bien, on va essayer. Et donc, à chaque escale de votre tour du monde, vous expérimentez des inventions. Parfois, c'est 3 fois rien. C'est fait avec des plantes ou des bouts de ficelle. C'est du low-tech. Mais ça peut changer la vie de millions de gens. Par exemple, ça revient plusieurs fois dans le livre et au cours de vos escales pour l'un des plus gros soucis de la planète, l'accès à l'eau douce, à l'eau potable. Expliquez-nous.
En fait, le principe de base, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein d'inventeurs qui inventaient tous les jours dans le monde des super inventions, donc qu'on appelle des low-tech, qui répondent à 3 trucs. C'est ça doit être utile, donc il y a l'accès à l'eau dont vous venez de parler, mais il y a aussi l'accès à l'énergie, à la nourriture. C'est aussi des technologies qui sont accessibles à tous, à la différence avec les high-tech. Donc il n'y a pas besoin de compétences très très particulières. Donc beaucoup de gens peuvent les répliquer. Et ensuite, c'est des technologies qui sont durables et respectueuses de l'environnement. Et parmi toutes ces solutions, en fait, la plupart sont hyper ingénieuse, géniale et règle des problèmes localement, mais reste à échelle locale. Et du coup, on s'est donné le défi de les trouver, de les tester et de les diffuser au plus grand nombre en open source gratuitement pour que d'autres puissent les répliquer et puis résoudre des problèmes dans leur coin. Et effectivement, un des grands soucis qu'on a vu un petit peu partout, c'est l'accès à l'eau. Et donc, on a plusieurs systèmes. Au Maroc, on a vu un système pour dessaler de l'eau de mer grâce à l'énergie du soleil.
Oui, parce que alors il y a des grandes usines de dessalement d'eau de mer au Maroc, hein, vous dites c'est le royaume du dessalement d'eau de mer, mais c'est très énergivore, ça consomme beaucoup d'énergie. Et là, vous trouvez, bon, c'est quoi? C'est un tissu qui piège le sel de l'eau de mer, en quelque sorte, au Maroc.
Ouais, en fait, il s'agit de d'évaporer l'eau, parce que le sel reste et il y a que l'eau pure qui s'évapore, et de la condenser autre part. Et donc grâce à ce système-là, qui est malheureusement un petit peu lent, et donc ça vient pas du tout en concurrence avec les usines de dessalement,
c'est pour les petites
mais
quantités,
ça pourrait servir pour répondre à des besoins de base dans des endroits assez isolés.
En Inde, un système de phytoépuration, c'est-à-dire avec des plantes spécifiques pour filtrer l'eau et pour la rendre potable.
Voilà, avant de rejeter de l'eau qui est polluée, des eaux grises dans la nature, on peut les faire passer par des plantes et par des espèces d'élevage de bactéries qui va transformer les polluants et voilà, rejeter de l'eau propre à la nature. Et on peut aussi se servir de ces bactéries et ces plantes pour recycler, c'est-à-dire faire pousser des plantes, par exemple des légumes, grâce à de l'urine transformée par des bactéries.
Et c'est un problème considérable, je le disais, j'ai relevé dans votre livre ces chiffres. 665 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. Toutes les 19 secondes, un enfant meurt d'une maladie liée à l'eau. Et puis alors, amusant, vous arrivez à fabriquer une petite éolienne avec le moteur d'une imprimante usagée. Expliquez-nous.
Ça, j'ai adoré ce moment-là. C'était à Dakar, il y a une grande décharge. Et dedans, il y a une espèce de tas d'imprimantes, de scanners, de photocopieurs. Et dans tout ça, les petits moteurs qui font avancer les feuilles. Et ces petits moteurs-là, si on fixe des pales dessus, qu'on peut fabriquer aussi très facilement, on met ça dans le vent et ça fait une éolienne qui produit de l'électricité gratuitement.
20 watts.
Ouais, 20 watts, c'est pas énorme hein, par rapport
non,
à ce que nous on consomme,
énorme.
Mais vous pouvez recharger des téléphones portables, vous pouvez allumer des lampes, voilà, ça répond vraiment aux besoins de base.
À chaque fois, il y a des modes d'emploi dans le livre parce que voilà, en étant un petit peu bricoleur, et ben ça peut nous servir, on peut s'amuser à reproduire vos expériences et à fabriquer les mêmes objets utiles.
Voilà, et puis on a créé un espèce de Wikipédia du low-tech, le lowtechlab.org, où vous pouvez retrouver les tutoriels, des vidéos et des tutoriels écrits pour que n'importe qui puisse les répliquer aux quatre coins du monde.
Les 15 épisodes de Nomades des mers sont diffusés sur Arte jusqu'au 16 novembre. C'est chaque jour à 17h35, mais on peut évidemment revoir tous ces épisodes sur le site d'Arte. Il y a donc ce livre Nomades des mers chez Arte Édition. Et la suite, Corentin Châtel-Béron.
Et ben là, je suis en train de préparer les prochaines escales. Le bateau est en Thaïlande en ce moment. Et on va faire le voyage Thaïlande jusqu'au canal de Panama. Et avec plein de super low-tech à découvrir, plein d'inventeurs qu'on est en train de contacter pour préparer les escales.
Merci à vous, Corentin de Châtel-Perron, Nomade des mers, donc à lire et à regarder dans cette série de films. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Voilà, je vous retrouve demain pour C'est arrivé demain avec Joseph Zimet, la guerre de 14, François Bujon de l'Étang, les élections, les mid-termes américaines, Armelle Lecléache, la route du Rhum, et Jean-Bernard Pouy et Patrick Crénal, le retour de Monte Cristo. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Cohen.
Mediapolis dans 5 minutes sur Europe 1.
Mediapolis avec deux éditorialistes qui n'ont pas leur langue dans leur poche, Maurice Ulrich de l'Humanité et Jean-Michel Apathy.
D'Europe 1, évidemment. Ce sera à 10h. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.
Merci Patrick Cohen. C'est arrivé cette semaine. Très bon samedi matin. Il est 9h55 sur Europe 1.